Serge.
Latina.
La Franco Latina.
Comment pouvait-elle vouloir que j'écrive sur un lieu où je n'avais jamais mis les pieds et que j'évitais à tout prix? L'émigré japonais de deuxième génération qui se pose cette question dans un restaurant à sushi de Sao Paulo ne soupçonne pas encore l'aventure qui l'attend derrière l'étrange requête de Setsuko, la propriétaire des lieux. Avec Le soleil se couche à Sao Paulo, roman paru récemment aux éditions Métellier, l'écrivain et journaliste brésilien Bernardo Carvalho nous balade entre le Brésil et le Japon, sur les pas d'un personnage qui emprunte ses passerelles étranges, qui lie parfois l'Amérique latine au pays d'origine de ses immigrants d'hier et d'aujourd'hui. Au passage, Carvalho se pose et nous pose plus d'une question sur la littérature et sur l'écriture. Une écriture où le journaliste enrichit le travail du romancier, bien qu'il s'agisse, à son avis, des deux métiers très différents.
Quand je suis journaliste, ce qui me plaît le plus, c'est de rencontrer des gens et d'être dans des endroits où j'irais jamais si c'était pas avec le prétexte du journalisme, de faire des interviews ou de reportages. Et plutôt dans la littérature, c'est un terrain beaucoup plus libre où, en même temps, qui peut-être demande pour moi beaucoup plus d'efforts, parce que c'est à moi d'inventer, c'est à moi de créer des choses. Et dans le journalisme, j'attends quelque chose, je vais à l'encontre des choses et j'attends que les choses me donnent quelque chose, quoi, que quelque chose vienne du dehors. Et évidemment que ça, j'avais passé par là pour arriver à la littérature. Il a l'expérience, il a des choses que j'ai vues, que j'ai rencontrées, que j'ai écoutées. Mais quand même, il a un travail beaucoup plus... je ne sais pas, c'est difficile, mais concentré d'invention, de création et tout ça. Alors, c'est deux manières différentes. Moi, j'adore le journalisme, mais pour moi, le journalisme, c'est un travail beaucoup plus passif que la littérature. La littérature, elle est beaucoup plus active. Dans le journalisme, on va en principe à l'encontre de la réalité. Et dans la littérature, on part de la réalité, évidemment, parce qu'on est vivant, on part du réel, on a des questions, des inquiétudes, des trucs comme ça. Mais on va vers quelque chose qui n'existe pas. Et ça, c'est beaucoup plus difficile, c'est d'aller vers ce qui n'existe pas, a priori. Et le journalisme, c'est de partir vers quelque chose qui est déjà là et de rencontrer quelque chose. Ça serait plutôt la différence entre découverte et invention. Le journalisme, c'est la découverte et la littérature, c'est l'invention. C'est un peu comme ça.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à aller inventer une histoire, j'allais dire japonaise? Elle n'est pas tout à fait japonaise, elle est fortement japonaise. Est-ce que vous aviez au préalable un rapport quelconque avec le Japon?
Aucun. Je ne parle pas japonais, je ne suis pas japonais moi-même. J'ai aucun rapport avec le Japon, à part mon goût pour la littérature japonaise, pour la culture japonaise, à la distance, parce que je ne connaissais pas le Japon avant, et je suis allé là pour la première fois juste pour écrire ce livre. Mais ce qui m'a poussé vers le Japon, vers Tanizaki, cet écrivain-là, ça a à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que, avant ces livres-là, j'avais écrit un livre qui s'appelle Mongolia, qui a été publié en France aussi. Et j'ai reçu une bourse pour aller en Asie. C'était ma première fois en Asie. Et tout de suite, quand je suis arrivé, je suis passé par la Chine pour arriver en Mongolie. Et tout de suite, quand je suis arrivé là-bas, je me rendais pas compte de ça ici. Peut-être c'est la même chose au Brésil non plus. Je me suis dit qu'en Chine et en Mongolie, les choses ne peuvent exister que si elles sont utiles. Il y a un sens pratique, pragmatique des sociétés orientales qui m'a semblé très oppressif. Et en Occident, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais peut-être c'est une illusion, probablement c'est une illusion. Mais on croit on vit aussi des choses inutiles. La littérature, pour moi, la littérature que j'aime le plus, c'est des gens qui font des choses qui ne sont pas nécessairement utiles, si ça n'existait pas, personne ne sentirait le manque de ça. Et je me suis dit, j'ai besoin de ça, ça pour moi c'est très important, ça rend la vie meilleure, moins oppressive. Et en me rendant compte qu'en Orient, en Asie, c'était le principe, c'était cette idée d'utilité, de fourmilière, tout le monde avait des fonctions, et les choses existaient par des fonctions pratiques, pragmatiques. J'ai commencé à penser, mais le Japon, c'est bizarre quand même, c'est un cas à part. C'est un pays qui aussi obéit à ce principe de répétition, de tradition. L'art et la littérature, ça se fait dans la répétition et tout ça. Et quand même, dans ce pays-là, au XXe siècle, il y a eu quelques-uns des écrivains les plus importants absolument dans la planète, vraiment. Et c'est des gens qui ont imposé une subjectivité individuelle contre cet environnement qui n'est pas nécessairement propice à la rupture, au contraire, qui défend, qui fait l'éloge de la répétition, de la tradition, avec des petits changements très discrets. Et en pensant à ça, je me suis dit, il a un rapport avec le Brésil aussi, totalement différent, mais c'est un pays qui n'est pas nécessairement un pays littéraire. C'est contrairement à l'Amérique latine, il y a des pays comme l'Argentine, par exemple, c'est un terrain littéraire, ça, c'est fertile. Et au Brésil, on a l'impression, je ne sais pas si c'est par l'analphabétisme de la population ou par... C'est un pays où il y a eu des écrivains formidables, vraiment des génies, mais qui ont dû imposer leur littérature avec une force qui était encore plus grande qu'ailleurs. C'est un terrain impropre pour la littérature, j'ai l'impression. Et je me suis dit, alors ça a un rapport avec le Japon, avec ce japonais-là, grands écrivains qui ont écrit, ont réussi à faire des ruptures fantastiques dans le terrain de la littérature. Et je me suis dit, peut-être je vais utiliser le Japon comme une espèce de métaphore pour le Brésil, en étant des pays opposés et aux antipodes, vraiment. Mais que le Japon, ça servait à quelque chose qui m'était très riche et... des questions qui me préoccupaient beaucoup, le survie de la littérature, la survie on dit,
la survie.
Bon. Et c'est comme ça, c'était un peu ça, je voulais faire l'éloge de la fiction, l'éloge de la littérature, l'éloge de l'inutile.
C'est un critique qui a même parlé d'une sorte de thriller, de roman, presque d'un polar très subtil, très sophistiqué, du fait de ces personnages brésiliens qui découvrent à Sao Paulo une histoire japonaise dans laquelle ils plongent complètement. Et ils croient avoir trouvé, il y a toujours une porte de plus. Est-ce que justement il y a dans cette tromperie ou dans ces mirages ce phénomène que vous avez voulu montrer de ces deux mondes qui sont bizarrement connectés?
C'est bizarre parce que c'est quelque chose qui m'a toujours inquiété, c'est l'idée d'identité. J'ai jamais compris ça. Et comment les gens, ils sont très contents d'avoir une identité, par exemple une identité nationale. Si on est né en France, si on est français, on est fier de la France et tout de suite on devient français et on est très content de se dire français. Et même si on est quelqu'un qui est de gauche ou vraiment radical, quand on arrive aux frontières quand même, on est français et ça change les choses. C'est difficile pour un Américain, par exemple, de comprendre. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont Américains, ils sont fiers de leur pays et ils ont raison de l'être parce que c'est un pays qui a été construit brillamment, je ne sais pas quoi, et la France pareil. Mais le Brésil, c'est curieux, c'est un pays... Enfin, je suis totalement brésilien, je suis un écrivain brésilien, j'écris un portugais du Brésil qui est vu par les Portugais du Portugal comme un patois. Et je suis là-dedans, j'aime bien beaucoup de choses, j'aime pas d'autres choses. Mais c'est un pays qui nous donne rien. Si on est brésilien, c'est pas comme en français, on a l'éducation, la sécurité sociale. Au Brésil, non. En principe, on a ça. On a ça dans la constitution, on a tout ça. Mais pour de vrai, on n'a rien. Si on est brésilien, on gagne rien. Il n'y a pas l'éducation publique au Brésil. La santé, c'est pourri. Et alors ça, au moins, j'ai l'impression, ça nous permet de voir les choses un peu différemment. On n'est pas nécessairement fier de la nation, de... Mais je ne peux parler que pour moi. Mais pour moi, au moins, ça me met dans une situation de malaise dans ce pays qui est le mien. Je ne peux pas le quitter parce que c'est le mien. Je suis né là-dedans, je suis formé. En vérité, je suis un Brésilien. Mais quand même, je suis mal à l'aise dans cet endroit. Et ça, il a quand même une richesse dans cette position-là. Ça me permet de voir, de ne pas être fier de l'idée d'identité, d'identité nationale, des identités imposées a priori. Et comme ça, je trouve, pour un écrivain, ça c'est formidable parce que ça fait voir, quoi. Et pour mes personnages, ça, c'est difficile, c'est pas confortable. Alors, il y a une souffrance quand même. Tous ces personnages-là, ils souffrent d'un malaise de ne pas se sentir à la maison, chez eux et tout ça, dans leur pays, dans leur place. Ils sont, il y a une expression française, non, de se sentir bien dans sa peau ou quelque chose comme ça. Ils sont mal dans leur peau. Et moi, je trouve ça formidable pour les arts en général. Et je trouve que la fiction, la littérature qui m'intéresse, elle vient de là, de cet endroit, de ce malaise. Et c'est des personnages, que, par exemple ce type-là, le narrateur, c'est un jeune homme qui est descendant des Japonais au Brésil, mais qui ne peut pas revenir au Japon de ses ancêtres parce que là-bas, il serait traité comme un esclave. C'est le sort de sa sœur qui est revenue au Japon pour travailler dans des industries comme une ouvrière au 19e siècle en Angleterre, quelque chose comme ça.
L'idée étant qu'un Japonais ne revient pas sur un échec,
oui,
dans son
ça.
Pays.
Oui, mais de toute façon, ils sont partis avec un échec parce qu'ils étaient déjà paysans, ils ne parlaient pas bien un bon japonais, ils étaient vraiment des gens très pauvres qui sont allés au Brésil, et ça fait un siècle. Et alors ce type ne se sent pas totalement brésilien, il ne se sent pas totalement japonais non plus, il n'est nulle part. Et c'est de là qu'il naît l'envie de littérature, l'envie d'écrire, l'envie de l'écriture, c'est de créer un monde à lui par l'intermédiaire de l'écriture et tout ça. Et il y a un poète portugais très connu partout, c'est Fernando Pessoa, qui dit une phrase, ma mémoire elle est nulle, mais ce qu'il dit c'est « Ma patrie c'est ma langue, sa patrie c'est sa langue à lui, c'est ce qu'il invente, sa patrie c'est ce territoire inventé par l'écriture, par la littérature, par l'art ».
En voyant le sujet de votre livre, vous avez déjà écrit un autre livre appelé Mongolia, je me disais qu'on commence à s'habituer à voir